Je vois un lieu, c'est un champ dans le Larzac. Et un grand champ. Les hommes et les femmes, tout le monde se mélange. Il y a les enfants qui courent tout nus. Une natte tressée. Et un panier en osier aussi. Ils s'embrassent, ils font l'amour.
J'étais lycéen à Arles, au lycée Frédéric Mistral, et j'écoutais la radio. L'écho que ça faisait, c'était quelque chose qui concernait ma génération, peut-être un élan vers une liberté absolue, était devenu quelque chose de non contrôlable.
Moi, j'étais dans ma campagne, au bout de Provence, et tout ça me parvenait par le transistor. Et on a, un beau jour, on a décidé comme ça de monter à Paris avec le conservateur des Beaux-Arts. Et alors, avec sa super déesse, on est monté à Paris pour aller faire la révolution.
Qu'est-ce qui était souhaité? On ne sait pas. Et on ne préférait pas savoir. Et on souhaitait l'inouï. C'était un mouvement, on ne savait pas vers quoi, vers où. Mais c'était un appel irrésistible pour cette.
Alain Cancès? Alain Cancès. Bien, que se passe-t-il de votre côté?
Pour l'instant, je suis encore trop loin. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe.
Et il y avait un CRS tout seul. Et on sentait le type qui en avait vraiment, mais alors, plein le dos. Et on a vu cet homme, tout seul, se retourner, le fusil à la main, et il a chargé tout seul. Et il a chargé pendant 50 mètres, c'est tout, mais tout seul.
Rue Gay-Lussac, les rebelles n'ont que les voitures à brûler. Que vouliez-vous donc, la belle? Qu'est-ce que donc que vous vouliez? Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par milliers.
Les pavés, la plage.
Bah, il se passait plein de choses, que c'était gay. Alors tous les soirs, j'allais à la Sorbonne tous les soirs. Mon mari, il se mettait la tête sous l'oreiller. C'était un gros connard. Ouais.
Il y régnait un certain chaos pour nous qui étions habités et vivants dans un monde ordonné.
Dites-moi comment s'appelle ce jeu-là que vous jouiez.
Il n'y avait là, plus une porte dans l'école. Ils avaient enlevé toutes les portes. Et ça m'a vraiment surpris, quoi.
Révolution la belle est le jeu que vous disiez. Elle se joue dans les ruelles, elle se joue grâce au pavé.
On arrivait, il y avait la porte d'entrée fermée. Ils nous ont ouvert et on est rentré. Il n'y avait plus une seule porte. Il y avait des piles de portes, en fait, des placards, des couloirs, tout ça qui était empilé dans chaque pièce au milieu. Ils avaient décidé de virer tout.
Mon joli barricadier, mon cœur en chancelle, je n'ai rien à vous donner. Si j'ai foi dans ma querelle, je ne crains pas les policiers.
Alors qu'est-ce qui se passait? D'un moment, ils me disent, tu te rends compte, ils ont pris ta voiture, ils l'ont mise en travers de la route. Mais je m'en fous, moi. Je m'en fous. C'est pas grave.
Les rebelles, donc les voitures à brûler. Que vouliez-vous donc, la belle? Qu'est-ce que donc que vous vouliez? Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par milliers.
Cette génération qui est la mienne, on est né donc dans l'après-guerre, on était totalement surplombé par le discours de la guerre, de la résistance, des malheurs, des souffrances, des déportations, des morts. Et tout cela nous était souvent brandi sous le nez, chaque fois qu'on laissait pousser les cheveux au-dessus des oreilles. Et c'était un peu disproportionné, n'était pas totalement idiot quand même. On disait, mais quel rapport les souffrances et le fait d'avoir les cheveux longs, qu'est-ce que ça vous fait? Eux, ils comprenaient qu'une rupture était en train de se faire, que nous, on ne comprenait pas, parce qu'on la faisait, la rupture.
Ça changeait, quoi. C'était vraiment, ça a beaucoup bougé les choses, hein. Fumer, c'est à partir de là. Fumer dans la rue, tout ça, tu vois, c'est une espèce de liberté, comme ça. Et on sortait du 19e siècle. Donc, je sais pas, c'était une espèce de vent d'espoir, tout d'un coup, ça devenait moins rigide, beaucoup plus souple, et puis les gens se parlaient, tu vois, c'était...
Renaissance.
Il faut voir qu'il y a, en 68 et avant 68, les gens ils vivaient comme au 19e, point de vue mentalité. Mais je le savais que quand je me mariais, j'étais même à l'église, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Donc j'ai viré total. Qu'est-ce que je veux m'insérer dans une société qui me déplaît? Tu sens que tu es déviant politiquement, déviant. Déviant socialement, mais il y en a plein, heureusement.
Soyez réaliste, demandez l'impossible. Ça vous la connaissez, celle-là, hein? Bon. Et le prolétaire, celui qui n'a aucun pouvoir sur l'emploi de sa vie quotidienne et qui le sait. Et qui le sait. L'éducateur doit être lui-même éduqué.
Comment on vivait, enfin, c'était ridicule, on avait... une sorte de président de la République, un peu le père de tous, quoi. Et puis les filles ne pouvaient même pas fréquenter les garçons. Enfin, je veux dire, on avait une vie complètement réduite à l'idiotie. On ne pouvait pas écouter les Spend the Night Together par les Stones et en même temps vivre avec des cités universitaires où à 22 ans, 23 ans, 24 ans, on n'avait pas le droit de rencontrer une fille ou l'amener chez soi. Enfin, c'était insensé, on comprend bien ça, ce genre de choses.
Quand tu pourras. Croire, douter et agir, douter et vouloir, tu seras sauvé.
Français, Française, je vous ai tout pris ou je vous ai compris.
On jouait à haïr et on s'amusait profondément à crier CRSSS.
Et j'étais parti à la fac de Dauphine pour foutre un peu le bordel. On était trois copains, dans les trois. Il n'y a que moi qui suis revenu, les deux autres ont fini à Beaujon parce qu'ils ont pris l'un une grenade dans le tibia et l'autre tellement de coups de matraque qu'il y avait des bosses partout, sur les bras, sur la tête. Et puis
quand ça a chargé, là c'était violent et je me suis réfugié dans un immeuble de la rue Gay-Lussac.
Je me souviens que j'avais manifesté contre De Gaulle, moi, sur les Champs-Élysées à ce moment-là.
Et je regardais ça du trottoir, quoi, sur le côté.
Moi, j'étais à fond pour les barricades, mon mari beaucoup moins.
On ne savait absolument pas où on allait, ni les uns ni les autres. On avait peur, ça, je me souviens aussi, qu'on avait peur de l'endroit où on allait. On ne savait pas où on allait.
J'ai rien à dire, mais je sens que je vais trouver maintenant que j'ai le temps. Je suis tellement sûr de ça et tellement excité à la pensée qu'il va me venir des idées que j'en rigole de plaisir.
Écoute, celui-là, on va enfin pouvoir. Ça, c'est formidable. Sur cinq colonnes, un gros titre, on va enfin pouvoir.
Quand j'arrivais le matin au carrefour des Gobelins, où il y avait deux grands panneaux en bois, et nous, on arrivait avec des grandes feuilles de papier immenses, pendant que les gauchistes, les communistes distribuaient leurs tracts noirs, mal imprimés, dégueulasses, et avec des feuilles de couleurs, on écrivait tout ce qu'on avait appris dans la nuit, les occupations d'usines. Et les gens se regroupaient pour lire. Et là, on voyait des petites vieilles avec leurs cabas, qui auraient, 8 jours avant, qui n'auraient pas parlé à un chevelu, ou pas à un noir ou à un marocain. Et très vite, tout le monde se parlait.
Très excitant, quoi. C'était vraiment bien.
La rue est devenue une réalité. J'avais l'impression qu'on sortait du langage, qu'on sortait des représentations et que la rue devenait une rue, que la ville devenait une ville, que la politique devenait de la politique, que le mensonge était un mensonge. C'était incroyable. Tout, on ne savait pas ce que c'était la rue. On a découvert la rue, comme on découvrait tout.
On concevait l'affiche à 7h du soir, à 8h on commençait
Il y avait notamment un petit bar.
À mélanger les produits, et à 10h elle commençait à sécher.
La place du Forum qui était le bar.
Une heure, on allait les coller.
Du rosé limé, donc voilà, des boissons pas chères, et on s'enfermait jusqu'à 2-3 heures du matin pour discuter, etc.
On écrivait des tracts pour qu'il y ait des tracts. Moi j'en ai écrit, j'en ai rédigé en 68. Mais on écrivait pour qu'il y ait encore un tract tous les jours. Tout le monde faisait ça, il y en avait des centaines de milliers par jour.
Les affiches de l'atelier des Beaux-Arts étaient tellement prisées que des petits malins venaient les décoller derrière le passage pour pouvoir les revendre. Donc pour pas qu'on décolle les affiches, la seule solution qu'ils avaient trouvée, c'était de mettre du verre pilé dans la colle, de façon à ce que les gens s'arrachent les bouts des doigts.
C'était une explosion de joie pour beaucoup. Parce qu'on avait vraiment, à cette époque-là, le sentiment d'avoir une chape de plomb sur le dos et de ne rien pouvoir faire. Et il y avait vraiment un climat de morosité énorme. Et tout d'un coup, voilà qu'on nous promettait Monts et Merveilles et qu'on avait l'impression qu'on allait changer le monde. C'était quand même une opération intéressante, quoi.
C'est en ligne, hein. Ouais. Je me rappelais un mot d'Einstein qui disait « Quand je vois les hommes marcher au pas, je me demande pourquoi la nature leur a donné un cerveau. Une moelle épinière, il suffit. » Je crois que c'est un mot pour les CRS.
Non, je ne vois pas un objet précis. Non.
L'objet emblématique de 68, pour moi, c'est je le dis à dessein, c'est un objet, c'est le CRS.
Face aux gens qui voulaient... Que ce soit un mouvement rouge,
sans rien, sans de fossé, sans de marque.
Amener le noir pour faire noir et rouge. Vous voyez, c'est juste symboliquement pour dire que c'était plus. Moi, je vois Marx comme un libertaire et pas comme un.
L'objet qui, moi, me rappelle le plus mes 68, c'est le matériel de sérigraphie.
Oui, le petit livre rouge.
Ouais, je sais pas, il y en a qui lancent leur soutien-gorge, peut-être.
Les sensations sont tellement en avant, vraiment des sensations tellement fortes, tellement incroyables.
Bon, vous le passez, passe.
De liberté, de plénitude, de peur, de vide, d'être idiot, de tout comprendre, enfin.
La guitare. C'est très très beau. Il était un temps où la jeunesse, les cheveux au vent. Je parle de promesses et de serments, foisonnant de promesses.
C'est un peu le principe de « ouvre la porte et tu verras bien ce qu'il y a derrière ». Si tu commences à essayer de deviner ce qu'il y a derrière avant de l'ouvrir, tu perds ton temps.
En fait, j'étais pas née en 68. Pas du tout.